Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
En ce 23 août, revenons sur l'histoire de Natasha Kampusch. Enlevée en 1998 à l'âge de 10 ans près de Vienne, elle était retenue captive pendant plus de 8 ans dans un sous-sol. Après 3097 jours, Natasha s'est évadée le 23 août 2006. François Vantôme revient sur ce moment de l'évasion, mais aussi sur le long chemin de guérison et ce que son histoire a enseigné à la société sur la protection des enfants, les médias et la résilience des survivants.
Natasha Kampusch avait 10 ans lorsqu'elle a disparu, un soir de mars 1998, dans un quartier calme près de Vienne. Ce qui commençait comme une journée ordinaire a rapidement pris une tournure inimaginable pour une enfant. Pendant 8 ans et demi, elle a vécu emprisonnée, isolée dans un espace réduit, cachée dans le sous-sol d'une maison privée. Au fil des mois et des années, son monde s'est rétréci à quelques mètres carrés. Un petit espace sombre, une fenêtre qui laissait filtrer une lumière ténue, un horaire minuté, une surveillance constante et un homme qui dictait chaque mouvement, chaque geste. Dans cet univers clos, Natasha a dû apprendre à lire les signes, à anticiper les humeurs, à économiser son énergie, à préserver ce qui restait de son identité et à nourrir l'espoir d'un jour voir le monde au-delà des murs. Natasha, malgré l'isolement, a continué d'avancer dans le sens de la vie réelle. Pour survivre aussi longtemps, elle s'est accrochée à des détails qui, pris individuellement, semblaient insignifiants et qui, assemblés, formaient une boussole pour survivre. Le quotidien devenait une succession de micro-actions qui remettaient un peu de contrôle entre ses mains. Chaque repas, chaque moment de silence choisi, chaque nom prononcé à voix haute devenait une manière de reprendre une part de pouvoir sur sa propre existence, de se sentir encore en présence de soi, de ne pas se laisser complètement submerger par l'angoisse. Dans cet univers, les routines offraient une forme de sécurité fragile, un ancrage dans une réalité où tout le reste avait été confisqué. C'était une manière de se garantir une continuité d'elle-même, même lorsque le monde extérieur paraissait lointain et inatteignable. Le 23 août 2006, tout a basculé, et ce qui semblait être une éternité de seconde grise s'est soudainement transformé en un passage brusque vers la lumière. Natasha a pris une décision qui ressemble à un acte de courage. Selon le récit des autorités, elle a saisi une opportunité lorsque son ravisseur était distrait, et elle a gagné une issue qui la conduisait à l'extérieur. Elle s'est alors dirigée vers la rue et a demandé de l'aide à un passant, qui a immédiatement alerté les secours. La police et les services médicaux sont rapidement intervenus et Kampusch a été conduite à l'hôpital pour des soins et une évaluation. Peu après, le ravisseur, Wolfgang Priklopil, s'est suicidé. L'événement a déclenché une mobilisation médiatique et publique sans précédent autour de son histoire et a conduit à une période de fermeture, puis de réintégration pour Kampusch. Pour Natasha, le retour à la vie normale ne se fit pas du jour au lendemain. Elle a été placée sous l'accompagnement des autorités et de professionnels de la santé et a entamé un long processus de reconstruction dans la vie sociale. Quelques mois après son évasion, Natasha Kampusch se confie sur ses difficultés à vivre librement.
J'étais totalement effrayée en sortant et je voulais me cacher de tout le monde parce que je n'étais pas habituée au monde. Je n'étais tout simplement pas capable de le supporter. J'étais très vulnérable et très timide. Parfois, je suis effrayée quand quelqu'un me crie « bonjour » comme s'il me connaissait bien. Je n'aime pas les voix fortes. Les gens ont des odeurs corporelles. Ils fument ou bien mettent du parfum. Tout cela peut être très envahissant pour moi. C'est vraiment très dur. Tout le monde croit que moi et ma famille, on ne peut qu'être super heureux maintenant. Mais vraiment, c'est faire peser une énorme pression sur nous. C'est vrai qu'ils ne sont plus inquiets. Ils savent où je suis. Mais il y a d'autres problèmes.
Au fil des années qui ont suivi, la vie d'Natacha s'est transformée en un engagement public. Son parcours l'a conduite à devenir une voix pour les enfants et les survivants. Elle a pris part à des conversations sur la protection de l'enfance, sur le soutien psychologique accessible et sur les réformes nécessaires pour améliorer la sécurité des jeunes. Natacha a choisi de publier ses mémoires. Son histoire a permis d'éclairer des questions essentielles. Comment mieux reconnaître les signes de détresse et de disparition? Comment les institutions peuvent coopérer plus efficacement? Et comment le récit public peut respecter la dignité d'une personne sur la manière dont on peut raconter des vies brisées avec respect et sans sensationnalisme? Elle a aussi rappelé que la guérison est possible, mais qu'elle demande du temps, du soutien et des ressources.
Vous êtes avec Radio SBS en français. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Petit détour dans nos archives maintenant dans notre programme français en ce samedi et ma rencontre avec David Stratton et Margaret Pomerantz, les fameux Margaret et David de ABC, avec eh bien, le décès bien entendu de David Stratton il y a quelques jours. Retour donc de cette archive de 2015. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Great pleasure today to speak to Margaret and David. Welcome back on SBS.
Oh, it's lovely to be back.
We've got a magnificent view. We're on pretty much the top of Melbourne. You are opening the French Film Festival for Melbourne. You're the patron for the whole of the French Film Festival in Australia. How important is French cinema in Australia?
Oh, I think there is a major connection between Australians and French culture generally, but it's reflected in Australians' love of French cinema.
Yeah, I think French cinema has always been very popular in Australia, and I think that's partly because French cinema has usually been on the cutting edge. It's been innovative very often, and it's been accessible. And because French cinema represents different kinds of genres and auteurs, so I think Australian audiences have responded to that over the years. When I first arrived in Australia in 1963, there were French films showing here that hadn't been showing in the UK when I was there. So I think there's always been this love for French cinema here in Australia.
Have you seen the scene change, the way the French films were and are now? Is it more commercial? Is it still some cutting edge? Because the competition is only getting bigger from other countries. Is it changing? Is the world scene changing in de facto changing the French cinema as well?
Look, I think that, you know, France produces about 250 films a year. It's an enormous industry. What is it, the third biggest in the world? And within that, you know, there is new talent coming through all the time. It has a great depth, a great ability to reinvent itself. And because of that depth, it's been able to survive in a way that the Italian cinema hasn't, Swedish cinema hasn't really. you know, the talent has really moved to the East, where, you know, you've got now got fabulous Korean filmmakers, Thai filmmakers, Iranian filmmakers. You know, France is this solid block of European cinema that's been able to maintain its position in world cinema over all those years.
And what makes the difference? Is it the funding? Because France has got a very particular way of funding cinema. For the people that don't know, they get money on every entry, including yes. films from overseas. Is that the key, do you think?
Yeah, I that's a major part of it. I mean, it's a wonderful system that the French have because it was established just after the war. And it's the only country in the world that does it. And I think the Americans absolutely hate it. Because effectively it means that every single cinema ticket that's sold in France, whether it's for a big American blockbuster or a small film, doesn't matter what it is, a percentage of that ticket goes into this fund, which in turn helps finance French film production, but most importantly also helps promote and market French films, both in France and overseas. So, it's a wonderful system and a unique system. And if we could establish a system like that in Australia, I think it would be fantastic for Australian films. But we never will be able to, because the Americans would never let it happen.
Where is actually Australian cinema at the minute? Do you see it growing? Is it at what stage can we say Australian cinema is out?
Look, I think Australian cinema is always reinventing itself, because no sooner do we produce a talent like Andrew Dominik, he makes one film here, Chopper, and he's in America. I think Americans are, you know, really love picking off talent from all around the world. And so, and we've got a very small population in comparison to France. And we're competing in an English-speaking market as well. So I think it's actually, you know, difficult. But we made some very good films last year. And I don't know why Australians didn't go and see them. I really don't. There's a disconnect between what is being produced and what people want to go and see.
But you see, I think one of the reasons they don't is what we were talking about a moment ago. It's the marketing. I mean, two of the best Australian films, well, three of the best Australian films made last year were Charlie's Country, The Babadook, and Predestination. And those were all films that were distributed by small distributors, and they didn't have the clout, the marketing, the promotional clout to make people aware that these films were on. And many people would say, I didn't even know about that film. And that's something that the French have. This is why this system of the percentage on the ticket sales is such a wonderful system. We don't have that marketing resource. We can make the films. We can't sell them.
No, and you've got to admit that the French are excellent at getting word out about their cinema. I mean, you know, there is this feeling that the French own cinema, you know, and they have the most important film festival in the world, in Cannes, and, you know, French films are represented, you know, heavily there. You know, and you have, you know, something like the Alliance Française, you have this French film festival that is promoting French culture in this country. And it's grown enormously over, what, the 20-odd years that it's been going.
And you have Unifrance, which is an incredibly important source of information and promotion and marketing and all the things we've been talking about.
I mean, it's well-funded. This is the thing, too.
Exactly. It's well-funded because the Americans indirectly help fund it.
I'm not saying I don't like it, you know. Let's talk about the festival. How did it all come about for you? How do you end up being the patron of the French Film Festival this year?
We were invited, and, you know, I thought it was actually a great honour. And we were only too happy, or I was. You were too.
Yes, I mean, as Margaret says, we were asked if we would be, and we said yes, without really very much hesitation, because it's a big film event. I mean, after, let's say, the big festivals like the Sydney, Melbourne, Adelaide film festivals, The French Film Festival is the next big film event of the calendar year. So it was nice to be invited, and we said we would. I mean, having said that, I must say that we are asked, and you might be about to ask us, what we think of the films in the program. Now, the thing is, the fact that we agreed to be patron didn't necessarily mean that we had seen the films in the program. I mean, I haven't seen probably two-thirds of the films in the program yet. We saw one or two in Cannes last year or in Venice last year, because we're patrons doesn't necessarily mean that we're endorsing everything in the program because we haven't seen it.
But, you know, so there, what are there, 49 films in the festival? France produces 250. You know, out of 250, you can get, you know, sort of like 20% that are fairly good. And the ones that I've written about in the program are ones that I really, really loved.
In terms of where you are now at your career, it comes you retired from your role at the ABC. Does that mean you just stop watching movies? Like, you know, the same way an airline pilot might just want to drive on his holidays?
We're film junkies. I don't think you can give it up that easily. And certainly David gets withdrawal symptoms if he doesn't see at least one film a day.
Yeah, no, I'm still reviewing films for The Australian every week. I'm still lecturing on film history at Sydney University. And I'm writing a book. And so I'm still pretty busy. And Margaret's even busier.
Yeah. Yes, I'm working with Foxtel at the moment. So that's keeping me off the streets.
You already said you haven't seen all the films, but from the one you've seen, is there one you can pick that you particularly like this year in the festival? I can give you mine. I did like The Connection because I thought it was a great role for Dujardin, coming out of the big successes he has. It's more of a, I'd say, grounded role in French history or recent history. Is there any film you really enjoy this year on the one you've seen?
I was interested in Alex Delaporte, who made Angel et Tony, and her new film, The Last Blow of the Hammer, is really lovely. There's something about her filmmaking that's got a texture to it that's very affecting, I find. And the kid in it is, what a performance. Yeah, that's one that I sort of very much embrace. But I liked, you know, Far From Men. I thought that was an extraordinary film too, visually. And I've always wanted to go to the Atlas Mountains, and boy, do you see a lot of them in that film.
And you, David?
Well, you were talking about The Connection. You see, I haven't seen that film, so I can't comment on that. The film I think that stood out for me, and I saw it last year in Cannes, was The Blue Room. La Chambre Bleue, which is the second film directed by the actor Mathieu Amalric, and it's based on a Georges Simenon story. And when I saw it in Cannes, I thought it was something very special. I love thrillers, and this is a sexy, erotic thriller, and it's been handled like an old-fashioned film in the sense that it's filmed in the old square ratio. It's very imaginatively done, and takes you on a most interesting and intriguing journey. So I think that was certainly one of the highlights for me.
It's quite interesting, actually, in this day and age where they can go and say, I'm just going to do a different ratio on the film. It's going to be a square ratio, and this is where it's going to be. That studio still lets people do these sort of things.
Well, I think it's easier to do it now because the way films are projected these days, you can just mask it off and you don't have to quite have that same, as long as the screen size can be adjusted. So I think it's probably easier to play around with ratios these days.
Wes Anderson certainly played around with ratio in the Grand Budapest Hotel.
Grand Budapest Hotel has about three different ratios, yes. And they go backwards and forwards.
And yeah. Mommy Dearest. Mommy, not Mommy Dearest. Mommy does as well.
Let's not talk about that.
It's been lovely having you here. I hope you enjoy your time in Melbourne. I hope you enjoy your time in the French Film Festival tonight.
I'm sure we will. It's, you know, everybody's very charming.
Yes, we're looking forward to this evening, and in fact, as I say, it's been an honour to be asked to be patrons, and we'll have a good time.
Thank you.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Mon dos est de rigueur, intrigues enflammées.
Comme si l'on pleuvait.
Devant ma porte, prétendants et jeunes premiers.
Comme si l'on pleuvait.
Nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet.
Comme si l'on pleuvait.
Des présents chaque jour.
Comme si l'on pleuvait.
De l'amour.
Comme si l'on pleuvait.
À toi qui me vois mignonne, maintenant du genou fange.
Et c'était Comme s'il en pleuvait de Maria Andrade. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Nous sommes en studio avec Eva Bonnet. Eva, bonjour.
Bonjour Marianne.
Certains connaissent votre nom, d'autres connaissent votre compte. Bonjour Mate, puisque vous avez un compte Instagram qui est suivi par, accrochez-vous bien, 460 000 personnes, c'est énorme. Ces followers qui suivent vos aventures et regardent vos vidéos qui jouent sur la double culture franco-australienne, on va en parler dans un instant. Mais déjà pour vous présenter, Eva, vous êtes née à Saint-Tropez, dans le sud de la France, il y a 36 ans.
C'est exact.
Vous êtes née d'une maman anglaise et d'un papa français, donc vous avez toujours baigné dans cette double culture. Puis en 2019, vous avez rencontré un homme, c'est devenu votre mari.
Oui.
Vous avez eu deux enfants, vous avez deux chats aussi. C'est important, faut jamais oublier les animaux. Je trouve que du moment où on a des enfants, et les gens oublient que nos animaux, c'est aussi nos bébés.
C'est vrai, et nous, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse un effort supplémentaire pour prendre des photos de Noce et Dia chaque jour, parce qu'avant, on prenait des photos de tout le temps. Et ça a vraiment chuté.
Eva, votre compte cartonne, notamment, on l'a dit, grâce à vos vidéos légères sur la parentalité, être une maman française en Australie. Comment ça se passe? Eh bien justement, comment ça se passe d'être une maman française en Australie? Est-ce que c'est différent que d'être une maman française en France?
J'ai toujours été maman que en Australie, donc est-ce que je peux parler avec expérience? Peut-être pas tout à fait, mais... En étant française et en ayant donc observé d'autres mamans comme ma sœur et mes amis, je trouve que effectivement les mamans australiennes ne sont pas tout à fait pareilles que les mamans en France. Je pense que en France, la maman française est bien que aimante, peut-être un peu plus exigeante que la maman australienne, qui me semble plus dans le gentle parenting.
Justement, en ayant fait ce constat, vous jouez sur les clichés quand on regarde votre
compte. J'exagère.
Et ça fonctionne?
Oui.
Est-ce que c'est des Australiens qui vous suivent et qui justement se disent « Oh, mais ce cliché français me plaît bien » ou est-ce que c'est quand même plus une communauté francophone?
C'est vraiment une communauté très diverse, mais beaucoup d'Australiens, effectivement, et beaucoup d'anglophones en règle générale. Donc, il y a un public américain et anglais aussi. Et il y a des Français.
Évidemment. Ce compte, vous l'avez créé il y a 2 ans sur TikTok, et ensuite vous êtes allé sur les autres réseaux sociaux. Et à la base, c'était pas du tout pour publier une dizaine de vidéos par jour et faire rire des clichés. C'était pour faire un peu de français avec votre premier petit garçon, Bastien.
Oui, c'est exact. Vraiment, lorsque Bastien est né, j'ai eu une envie de transmettre ma culture française et surtout la langue française. Donc, je me suis mise à faire des petites vidéos avec Bastien qui étaient vraiment toutes mignonnes. Souvent, je peignais ou je dessinais un fruit et je disais le nom du fruit en français pour lui apprendre avec une petite image de Bastien. Et puis, bah, ça a progressé. C'est devenu quelque chose qui me passionnait. J'ai reçu beaucoup de retours très positifs. Et voilà.
Eva, on le voit quand on regarde vos vidéos, quand on vous suit sur les réseaux, on le voit également quand on vous connaît en vrai, vous êtes toujours extrêmement chic, magnifique, très apprêtée, en vrai, entre nous. Eva, est-ce que parfois vous vous laissez aller?
Bien sûr, absolument. Il ne faut pas me voir le matin au réveil. C'est un mix de pull, pyjama sympa, mes shorts qui ne matchent pas. Non, c'est pas... non, je ne suis pas parfaite.
Là aussi, peut-être un petit cliché à la française.
C'est gentil, mais c'est notamment grâce à Blue Illusion pour qui je suis brand ambassador.
Et vous disiez tout à l'heure les vidéos avec Bastien où vous... lui faisiez apprendre le français, ça a très bien fonctionné. C'est sûrement ça qui vous a donné l'inspiration ensuite de donner des cours de français. Vous faites du tutorat.
Oui, c'est exact. En fait, en faisant ces vidéos, c'est venu naturellement. les gens ont commencé à me demander, mais est-ce que tu donnes des cours de français? Alors, j'avais déjà donné des cours de français ici et là dans le passé avec des Australiens avec qui je travaillais. On se réunissait dans des cafés, je donnais des petits cours de français avec un café, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est venu naturellement et je voulais pas me lancer dans quelque chose où je promettais une formation pour passer des tests de niveau et tout ça, mais juste quelque chose qui permettait à ceux qui sont passionnés du français et qui veulent développer leur level of French conversation et puis aussi juste se détendre et passer un bon moment avec d'autres francophiles. Je me suis mis naturellement à proposer des classes qui permettent à toute personne qui est intéressée de se joindre.
Et pour aller même plus loin, au-delà des classes en ligne ou autour des cafés, vous organisez des retraites, parlez-nous-en.
J'ai organisé ma toute première retraite de langue française, donc un petit séjour immersif qui était en Australie, donc quelque chose de pas compliqué à mettre en place dans le sens où c'est ici en Australie qui permet à tout le monde de profiter un peu de culture française et de pratiquer le français tout en n'ayant pas besoin de faire 24 heures de vol.
Et c'était une bonne ambiance. Comment ça s'est passé? Vous avez parlé français tout le week-end, mangé des spécialités?
Soyons honnêtes. On a parlé de l'anglais aussi, mais on a essayé quand même de parler français. Tout le monde s'est extrêmement bien entendu. Elles l'ont toutes dites que c'était un groupe exceptionnel et c'est vrai. Elles avaient vraiment au cœur la passion de la France et du français. Elles partageaient ça et ça a fait qu'elles se sont unies. Ça s'est très bien passé.
Voilà. Super, donc vous allez en refaire?
Oui, à 100%. Sauf que j'espère que la prochaine fois, je dormirai parce que j'ai pas dormi pendant une semaine de l'angoisse. J'espère que la deuxième fois, je dormirai un peu plus.
Donc vous savez que ça s'est bien passé.
Oui.
Eva, il y a un aspect qu'on connaît un petit peu moins, mais qui explique sûrement beaucoup de choses quand on vous connaît aujourd'hui, le côté très résilient, très souriant. C'est votre combat contre la maladie. En 2020, un an seulement après avoir rencontré votre compagnon et alors que vous n'aviez pas encore d'enfant, on vous a diagnostiqué, si je ne me trompe pas, un cancer des os et on vous a dit que vous n'auriez pas d'enfant.
Oui, on m'a dit effectivement que c'était presque certain que ça serait difficile en tous les cas d'avoir des enfants. On m'a proposé de voir un fertility doctor. Très sincèrement avec vous, lorsqu'on m'a annoncé ça, moi j'étais dans la peur de ce qui m'attendait et c'était vraiment pas important quand on me l'a dit.
D'accord, malgré le fait que 30 ans, c'est souvent l'âge où on veut fonder une famille.
Et effectivement, mais moi, j'étais pas encore là dans ma tête. Et vraiment, j'avais tellement peur. J'ai su après, donc j'en ai parlé avec mon copain, ça faisait qu'un an qu'on était ensemble, effectivement. Et j'ai su après que sa famille lui ont parlé lorsque je n'étais pas présente et lui ont dit: est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages? Est-ce que pour toi c'est un deal breaker de ne pas avoir d'enfant? Et j'ai su après qu'il leur a clairement dit non, pas du tout, on aura des chats et on voyagera.
Et l'année de votre chimiothérapie, comment ça s'est passé? Vous avez tout de suite su que vous alliez vous en sortir?
Non, j'ai eu très peur. J'avais ce qu'on appelle ostéosarcoma high grade. Avec ostéosarcoma, le problème, c'est que c'est quelque chose qui paraît isolé, mais en réalité, ils sont obligés de le traiter comme si c'était un cancer systémique, parce que malheureusement, très souvent, sans qu'on s'en aperçoive, et de nulle part, ça passe dans les poumons. Ça commence dans les os, et pour une raison ou pour une autre, ça termine dans les poumons. Et en général, lorsque ça se termine dans les poumons, c'est véritablement très mauvais. Donc j'avais très peur, mais on m'a donné une chimiothérapie qui était radicale. Et c'était très difficile, mais on m'a rassurée. Voilà, on m'a rassurée, j'avais des super docteurs, on m'a rassurée quand même, on m'a pris la main, on m'a rassurée.
Et là, vous vous êtes dit, votre conjoint, il a été formidable, c'est le bon?
Il a été incroyable, il a passé la nuit à l'hôpital avec moi, tant qu'il pouvait. Après, les restrictions Covid sont devenues plus sévères. Il n'avait même plus le droit de m'emmener jusqu'à mon ward. Et c'était très difficile. Je hurlais. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je hurlais, je pleurais. Je hurlais. Il fallait que des infirmières viennent me soulever du sol. C'est très difficile dès le départ. Mais en plus de ça, au fil des semaines, lorsqu'on vous rajoute du traitement, vous devenez très faible. Et ça devient très difficile à supporter, mentalement, physiquement. Ouais.
C'était il y a 5 ans, et oui. Vous êtes en rémission aujourd'hui?
Ouais, je suis en rémission et j'attends donc les 5 ans de rémission qui seront en décembre.
Est-ce que vous avez des projets pour la suite?
Oui, alors je veux effectivement, donc avec Bonjour Maître, aller plus loin. Je suis en train de travailler sur une plateforme qui me permettrait de faire des choses plus interactives. Aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, mais j'aimerais avoir quelque chose qui permette aux gens de s'entraîner, enfin des choses plus interactives. Donc je travaille sur ça. J'ai des projets de vivre en France aussi avec ma famille. Avec, on espère pouvoir faire au moins 6 mois de l'année ci et là en France. Et puis, j'ai la chance de pouvoir faire ça de là-bas aussi. Et puis, quoi d'autre? Voilà, ça, c'est mes projets principaux en ce moment, en tous les cas.
Où est-ce que vous trouvez le temps? 2 enfants, une famille, un travail, du sport? C'est quoi votre secret?
Quelque chose quand même qui est important, parce que j'ai dit que lorsqu'on m'a annoncé que je ne pouvais pas avoir d'enfants, je n'étais pas désarmée. Mais je veux quand même dire quelque chose d'important, et c'est, j'en viens à ça. C'est que après le traitement, c'était la partie la plus difficile. Les mois qui ont suivi, je suis vraiment tombée dans un gouffre dépressif où je voulais ma vie d'avant, où je ne me reconnaissais pas physiquement, mentalement. Je ne me sentais pas bien. Et quand je suis tombée enceinte de Bastien, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je l'ai gardé un secret, je ne l'ai même pas dit à mon mari pendant presque 2 semaines. Parce que je me suis sentie tellement bien d'avoir ce secret. Et il a ouvert une nouvelle porte sur la vie. Je ne veux absolument plus ma vie d'avant. Parce que c'est la vie avec Bastien et maintenant Maxime aussi qui est celle qui compte. Et qui est la plus merveilleuse. Et puis avec Christian, c'est le mari et tout ça. Tout ça pour dire, je trouve pas beaucoup de temps. J'ai vraiment très très peu de temps. Mais vraiment, je pense que c'est grâce à eux si je fais tout ce que je fais. Sincèrement.
Un entretien en pureté, tout en authenticité. Merci beaucoup, Eva.
Merci à toi, Marianne.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Sur l'autel de la violence éternelle.
Manhattan, Kaboul, Axel Red et Renaud. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS en ce samedi. À tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french. Ou téléchargez l'application SBS Radio.
Un des chocs culturels en Australie, ça peut être la vie nocturne. Vous le savez sûrement de quoi je parle. Si vous avez vécu en Europe, eh bien l'Australie, c'est totalement différent. Les explications et petite enquête de Grégory Pless.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse sans doute tous ceux qui vivent à Sydney et plus largement en Nouvelle-Galles du Sud. Peut-être quelque chose qui, comme moi, vous a surpris quand vous êtes arrivé en Australie et dans cette ville en particulier. Une ville qui fait partie des grandes villes du monde comme New York, Rio, Paris, Tokyo, etc. Mais la grande différence avec toutes ces grandes métropoles, c'est que la vie nocturne à Sydney, c'est quand même pas incroyable, il n'y a pas beaucoup de choix et surtout tout se termine très tôt. Mais il y a la volonté de changer tout ça, une volonté portée par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une Française qui travaille pour ce fameux gouvernement, Aurore Nicolas. Bonjour.
Bonjour Grégory, super contente de pouvoir parler de comment on redynamise Sydney et le New South Wales.
Eh bien, nous aussi, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait des choses plus actives que les chauves-souris la nuit à Sydney. Alors, la première question que je voudrais poser, alors c'est vrai que on constate, hein, tous ceux qui vivent en Australie de manière générale, les Australiens, c'est quand même des gens qui se lèvent tôt, qui font beaucoup de choses le matin et qui ont peut-être un peu plus de mal à se motiver le soir, mais en même temps, trouver à Paris des gens qui font leur footing à 6 heures du matin, c'est très difficile aussi. Alors, ma première question, c'est donc sur cette vie nocturne que personnellement et sans être moi-même un énorme fêtard, je trouve assez limité. Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Alors non, historiquement, en fait, on a commencé à voir le déclin de la vie nocturne à Sydney à partir des années au milieu des années 2010, à la suite d'un incident qui s'est passé dans le quartier de King Cross, hein, un jeune en fait qui a perdu la vie suite à une altercation. Donc c'était en 2014 si je me souviens bien, et à partir de cette année-là, ça a vraiment sensibilisé le public australien et les personnes qui vivaient qui vivent dans le New South Wales. Donc suite à ça, en fait, le gouvernement a vraiment restreint, on va dire, les droits des établissements, en fait, principalement établissements de nuit, bars, boîtes de nuit. Donc on a commencé à voir le déclin à partir de ce moment-là. Il y a des quartiers de Sydney qui ont vraiment été rayés de la carte suite à ça. Et il y a eu des campagnes, par exemple, une campagne qui s'appelait Keep Sydney Open. C'était en protestation un peu par rapport à ça. Donc il y avait le gouvernement qui essayait de protéger un petit peu les citoyens et puis d'une manière très réactive. Et ensuite, il y avait les citoyens qui avaient envie de sortir et d'avoir une vie nocturne plaisante, agréable, saine, qui considéraient que ajouter des réglementations, c'était pas régler le problème de fond, en fait. Donc on a vu ce déclin dans les années de 2014 à 2020. En 2020, le gouvernement a mis une stratégie en place pour donc établir une stratégie pour redynamiser la vie de nuit, la vie nocturne. Parce qu'ils se rendaient bien compte que plusieurs années comme ça, c'était vraiment difficile pour les restaurateurs et tous les business qui sont dans l'hospitality, comme on dit ici.
Ces fameuses lockout laws de 2014, tu l'expliquais, elles ont vraiment fracassé un certain nombre de commerces, d'établissements qui vivaient grâce aux gens qui sortent le soir, en particulier dans le quartier de King's Cross, effectivement, qui a été ciblé et qui, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savaient pas, c'était un peu le quartier chaud de Sydney, un peu l'équivalent de Pigalle, on va dire, version Sydney. Je crois que c'est devenu très compliqué également pour une bonne partie de Surrey Hills, notamment autour de la fameuse Oxford Street où se déroule la parade de Mardi Gras, etc. Ces deux quartiers qui se sont énormément gentrifiés. Et de ce que j'en sais, la vie nocturne, bah, du coup, c'est un peu décalé, notamment dans le quartier de l'Inner West autour de Newtown et de Enmore où ces lois ne s'appliquait pas. Et donc, tu expliquais également que désormais le gouvernement est revenu sur ces lois, qu'il s'est rendu compte que peut-être il était allé un peu trop loin, qu'il fallait un petit peu redynamiser cette vie nocturne. Et justement, pour parler de l'Inner West Council, dans le quartier d'Enmore, où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, etc., depuis un an, il y a eu une expérimentation qui a été faite. On y a créé ce qui s'appelle un Special Entertainment Precinct. Et en gros, les bars, les restaurants qui se trouvent là ont des autorisations particulières pour rester ouverts un peu plus tard le soir. Ils sont encouragés à organiser des concerts live, à avoir des artistes, animer les soirées. Et je crois aussi quelques permissions concernant la possibilité de mettre des tables sur les trottoirs pour que les gens puissent manger jusqu'à assez tard le soir. Alors ça, c'est donc au niveau du conseil de l'Inner West. Depuis le point de vue du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, comment on regarde cette initiative? Est-ce qu'elle est saluée? Est-ce que ça va dans la bonne direction, ce qui se passe dans ce quartier?
Oui, alors en fait, c'est un projet qu'on soutient, que le bureau pour lequel je travaille soutient. C'est un quartier qui est précurseur sur leur stratégie. Donc en fait, l'équipe pour laquelle je travaille est en lien avec toutes les mairies autour de Sydney, de ce qu'on appelle le Greater Sydney. Les Special Entertainment Precinct, en fait, ça établit certaines règles où les restaurateurs peuvent rester ouverts plus longtemps.
Ok. Alors, pour revenir sur effectivement cette initiative de l'Inner West, le precinct de Enmore va être pérenniser. Il a également été annoncé par la même mairie qu'ils allaient en ouvrir 6 nouveaux dans les différents quartiers de la commune: Balmain, Dulwich Hill, Leichhardt, Rosell et Marieville, deux endroits différents également. Toi, Aurore, tu travailles donc pour le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, plus précisément pour le Commissioner for the 24-Hour Economy, donc en gros le commissaire chargé de la vie nocturne. Je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais voilà, il y a ces initiatives qui sont prises au niveau local, au niveau municipal, vous, au niveau de l'État. Qu'est-ce que vous faites? Vous accompagnez ces initiatives? Vous en poussez d'autres? Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet?
Alors, au sein de mon équipe, il y a plusieurs divisions qui s'occupent de projets différents. Donc, on a quelque chose qui aide à développer en fait les compétences et un petit peu une sorte d'accélérateur pour les personnes qui travaillent dans le milieu de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, en fait, des personnes qui travaillent pour un bar ou qui travaillent pour un bowling, par exemple, peuvent aller, c'est sur plusieurs semaines, et ils apprennent un petit peu comment diversifier leurs offres et comment attirer le public, plus davantage de public ou davantage de personnes à passer les portes et à rester chez eux pour s'amuser et profiter de ce qu'ils peuvent offrir. Donc ça, c'est un programme qui s'appelle le Uptown District Accelerator. Donc, ce premier programme est général. Le deuxième programme est un petit peu plus sur les performances. Donc, ce qu'on va définir comme performance, ça peut être quelqu'un qui vient jouer en tant qu'un artiste solo ou un groupe de musique ou des personnes qui peuvent faire de l'art de rue, des comédiens qui viendraient faire un petit peu un comedy club. Donc ce genre de choses, c'est un autre accélérateur. On offre aussi des aides financières. On a une plateforme aussi où on met en relation, qui s'appelle la Neon Marketplace, où on met en relation les personnes qui font partie du milieu, encore une fois, de la restauration et de l'hôtellerie. Et s'ils cherchent en fait des prestataires de services, ils peuvent mettre une annonce. C'est un petit peu comme un Le Bon Coin. Et une autre initiative sur laquelle on a travaillé donc avec une des mairies qui est précurseuse, c'est les Sydney Street. Et les Sydney Street, c'est une initiative sur laquelle on a travaillé ensemble, où en fait c'est un petit peu comme la fête des voisins. On ferme la rue. Les bars ont un staff qui est là toute la journée, et les gens peuvent se balader dans la rue. La rue devient piétonne et ils peuvent un petit peu faire un circuit et aller de bar en bar ou de restaurant en bar pour passer un bon moment en ayant des artistes de rue et d'autres personnes ou d'autres business qui peuvent offrir leurs services pendant ces journées spécifiques. Donc ça, c'est que certains projets, mais on fait beaucoup de choses. On travaille aussi, il y a une équipe entière qui travaille sur assouplir les réglementations et les espaces en extérieur pour avoir justement plus de tables dehors, dans la rue, avoir un petit peu pignon sur rue pour les restaurateurs. C'est pas quelque chose qui est très fréquent. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en place via des équipes spécialisées l'établissement politique local.
La vie nocturne, c'est aussi bien sûr du business. Sur ce sujet, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud publie des rapports trimestriels, et dans le dernier, qui correspond Au dernier trimestre de l'année 2024, on apprend que les gens ont dépensé sur cette période, entre 6h du soir et 6h du matin, un peu plus de 4 milliards de dollars. Ça n'est pas juste pour Sydney, mais donc pour tout l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Et par ailleurs, cette vie nocturne, elle représente également plus de 870 000 emplois et 53 000 entreprises. Enfin, on se déplace beaucoup et surtout de plus en plus la nuit, puisque le même rapport nous apprend qu'au cours de ce même trimestre, on a enregistré plus de 38 millions de validations avec la carte Opal, la carte de transport dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, et au total, plus de 512 millions de déplacements ont été enregistrés. Alors, cela m'amène à ma dernière question. Est-ce que pour accompagner cette dynamique, envisagez-vous aussi d'étendre les horaires d'ouverture des transports en commun, au moins le week-end, et prendre par exemple l'exemple de Melbourne où, en fin de semaine, les transports fonctionnent toute la nuit? Est-ce qu'à Sydney et pour la Nouvelle-Galles du Sud aussi, c'est une piste de réflexion?
Ça fait partie des pistes de réflexion et de discussion avec le département du transport. C'est des choses qui sont en discussion et qu'on voudrait qu'ils aboutissent. En sachant que y a souvent cette sur pas mal de secteurs la rivalité entre Melbourne et Sydney. Melbourne est mieux placée d'un point de vue européen dans les mentalités sur l'activité de nuit et l'aisance à sortir par rapport à Sydney. C'est ça qu'on essaie d'assouplir. C'est en train avec le département des transports, mais ça prend du temps. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Il y a donc le secteur de la mobilité, en fait, déployer, avoir un service qui une amplitude horaire de service qui est plus grande. Mais aussi dans des quartiers qui sont un petit peu moins bien desservis et là on parlera de pas de train mais de réseaux de bus ou même de réseaux privés, donc à savoir les rides qu'on peut avoir via Uber ou d'autres services. C'est quelque chose qu'on essaye d'établir en fait en établissant des lignes, enfin des points en fait géographiques où les personnes qui sortent la nuit, si elles veulent rentrer chez elles de manière safe, elles vont à un endroit dans le quartier où elles sortent, où elles peuvent aller et où elles sont sûres de trouver un taxi ou un Uber plutôt que d'attendre seules dans la nuit et d'avoir un peu peur ou de pas être sûr, de pas se sentir en sécurité. Donc y a, ça c'est quelque chose avec lequel on travaille. Donc il y a un point to point commissioner, il y a le ministère du transport qui s'occupe de ça. Donc c'est des conversations qui se passent. Il y a aussi autre chose sur lequel on travaille, c'est la sécurité on va appeler ça des minorités, mais la sécurité des femmes, autant les femmes qui travaillent dans le secteur et qui où la culture peut être une culture relativement masculine, voire plus difficile. Donc on essaye de voir un petit peu si on peut pas établir des standards par rapport à ça avec en s'inspirant un petit peu de ce qui a été fait dans d'autres endroits, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, et de voir comment on peut s'assurer que les personnes qui travaillent dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie ont une culture d'entreprise ou de business qui les soutient et qui a des services de support qui leur sont apportés aussi. Donc ça c'est pour les travailleurs, mais aussi pour la clientèle.
Ok, c'est effectivement un très vaste projet avec tout un tas de pistes encore à explorer. On suivra ça de très près. Merci beaucoup, Aurore, pour toutes ces explications et bon courage parce que la tâche s'annonce rude. Merci.
Avec souci.
C'était Téléphone, vous l'aurez reconnu, avec Ça, c'est vraiment toi, une chanson pure et dure du punk français de l'époque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.u/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.